Le grand, le divin miracle de la radio nous offre l'opportunité de vous parler à l'antenne.
Ça y est, le contact est établi.
Qui êtes-vous ?
Un instant, je vous prie.
D'accord.
Détendez-vous et répondez aussi simplement que possible.
Votre nom, s'il vous plaît ?
Cinérama.
Je le savais.
Mais attendez, mais qu'est-ce que ça signifie ?
Actualité cinéma et tout le reste.
Vous imaginez ça ? Vous voyez le tableau ?
Le public va en raffoler.
Bonjour, Cannes n'est pas tout à fait arrivé et c'est tant mieux puisque de nombreux films sortent encore sur les écrans. Bonjour Manu.
Bonjour Vincent.
Alors de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Trois films.
Il y a trois films donc, dont un qui malheureusement n'a pas pour l'instant de distributeur sur Montpellier et sa région. Il s'agit d'un film français fantastique étrange qui s'appelle Blind Sun. Donc on ne sait jamais, si quelqu'un nous écoute, peut-être que ça donnera des idées à certains de passer ce film assez beau. Puis je vous parlerai donc de Dalton Trumbo et enfin Mekong Story, un film vietnamien.
Et puis moi, eh bien, je vous parlerai alors très rapidement des Habitants et de Dégradé. Le premier, c'est un documentaire de Raymond Depardon qu'on écoutera en interview. Et puis le second, eh bien, c'est un film des jumeaux Arabe et Tarzan Nasser, deux Palestiniens, qui font un très bon film Dégradé, sachant que ces deux films sortent le 27 avril. Et puis, eh bien, nous allons débuter cette émission avec Trax.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Cher monsieur, j'ai le projet de marcher à travers le désert australien depuis Alice Springs jusqu'à l'océan Indien, sur une distance de 3200 km. Et quand on me demande pourquoi je fais ça, je réponds à chaque fois « pourquoi pas ?»
Un caprice ou pas tout à fait. Nous sommes en 1975. La jeune Robin Davidson décide d'abandonner sa vie urbaine pour traverser le désert australien. Alors pas en 4x4, non, hein, mais à dos de dromadaire. Car c'est assez inattendu pour moi. Je savais qu'en Australie, alors, on trouvait des koalas, des dingos, des ornithorynques et des kangourous. Tu me le concéderas, ouais. Manu, hein. Eh bien, on trouve, mais j'étais loin de penser, hein, que dans le pays, eh bien, se trouvait la plus grande réserve de dromadaires sauvages au monde. C'est donc un défi que se lance Robin Davidson. Et quand on l'entend prendre sa plume pour raconter ce qu'elle va faire, là, ce qu'on vient d'entendre, eh bien, c'est qu'elle cherche un mécène pour financer son trajet. Alors, ce qu'elle trouvera avec le magazine National Geographic qui détache un photographe pour raconter son histoire dans les publications du monde entier. Elle est donc prête à partir avec quatre dromadaires et son chien fidèle.
Ton projet est ridicule.
Pourquoi tu fais pas un voyage moins long pour être accompagné?
Je veux juste être seul dans le désert.
T'es complètement cinglée, ma petite. Ça fait environ 3200 km. 6 mois de marche, c'est très dur.
T'as l'intention de mourir là-bas ou quoi?
Dans un premier temps, la jeune femme interprétée par Mia Wasikowska, qu'on a vue autrement dans Alice au Pays des Merveilles ou encore Maps to a Star, doit passer par une initiation, apprendre à dominer les dromadaires, à défaut de pouvoir établir une relation profonde avec les hommes. Alors une fois devenue dresseuse de dromadaires, la jeune blonde file à travers le pays, parcourant des paysages désertiques mais toujours variés. Elle est bien forcée parfois de croiser des hommes et des femmes sur son passage, mais la rareté de ces rencontres, et il faut bien le dire, la singularité de la plupart de ces rencontres, permettent à la jeune femme de donner un sens à ce parcours. Alors il y a les inévitables aborigènes, les ermites et d'autres hommes et femmes dont on se demande ce qu'a pu être leur vie. Jusqu'aux inévitables groupes d'individus prenant leurs vacances, appareils photo en bandoulière, annonçant les débuts du tourisme de masse. On est donc dans les années 70. Le plus gros problème de Robin est le photographe qui la rejoint régulièrement et qui lui demande de poser, ce qui enlève, admettons-le, de la spontanéité au défi. Un défi qui prend sa source dans la séparation. Alors on l'apprend au détour de nombreux flashbacks, de trop nombreux flashbacks maladroits. Alors on ne peut pas dire que l'aventure est toujours haletante, même si le suspense apparaît ici et là, mais l'incarnation de l'aventurière par Mia Wasikowska parvient à nous charmer. Les paysages sont tour à tour beaux, sublimes ou inquiétants. Après tout, il est question de National Geographic, donc la photo est soignée à grand renfort de plans aériens qui malheureusement condamnent parfois la mise en scène au documentaire aventurier. Alors on regrettera une musique omniprésente, finissant par desservir le propos, mais on découvre quand même, au détour de ce long métrage flirtant avec les deux heures, quelques séquences hallucinées. Alors au final, Track, film initiatique comparé à Into the Wild version féminine, on est assez loin, même s'il questionne également la solitude dans notre monde, il manque alors une dimension politique. Adam Driver, qui n'a pas encore mis son costume de Jedi, hein, parce que le film date de 2013, interprète le photographe bavard romantique, mais reste un élément secondaire. Il n'y a pas plus important que le chien fidèle de Robin. Donc, le personnage central est vraiment le personnage féminin. Voilà, c'est un film contemplatif, un peu.
Je conseillais, dans le même genre de film, un vieux film des années 70, Walkabout, de Nicolas Rugg, qui est un road movie qui se passe en Australie, dans le désert. On rencontre surtout des aborigènes, d'ailleurs.
À quoi sommes-nous confrontés ?
Cinérama.
C'est quoi, c'est une blague ou quoi ?
Blind Sun, alors film singulier et maîtrisé, situe son action dans un futur proche en Grèce, prenant pour cadre une situation sociale et politique pertinente qui nous évoque les événements récents du pays. Alors la crise, hein, présentée d'une manière allusive, sert de toile de fond à cet univers légèrement dystopique plongeant le personnage principal en milieu hostile. Alors, Ashraf, un immigré hein, dont on ne saura que très peu de choses, débarque dans une station balnéaire où l'eau devient une denrée rare. Il est embauché par une famille de Français pour garder leur somptueuse villa pendant leur absence. Alors à peine débarqué, les ennuis commencent. Il est arrêté par un flic antipathique, ouvertement raciste de par son comportement, qui lui confisque ses papiers. Il arrive ensuite chez ses employeurs qui l'accueillent avec un mépris à peine dissimulé. Alors ce couple incarne de manière un peu trop ostentatoire l'idée que l'on peut se faire de la bourgeoisie parisienne. Alors la réalisatrice force le trait et semble manquer un peu de subtilité. Alors d'autant que tous les personnages que rencontre Ashraf, hormis une jolie archéologue dans une séquence érotique de roman photo, digne d'un giallo, sont antipathiques. Mais étrangement, hein, cette volonté de placer Ashraf au cœur d'une situation d'emblée compliquée et de s'en retrouver en position d'infériorité permet au spectateur de saisir la psyché du personnage, de ressentir son mal-être, sa difficulté à s'adapter à un monde extérieur qui lui résiste en permanence. Alors Blind Sun part même d'un dispositif peut-être moins abstrait que le sujet pouvait le laisser envisager. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une réflexion hein, sur la crise économique d'un pays, ni d'un pamphlet contre l'attitude des migrants, mais Ashraf n'est pas une enveloppe vide, une figure allégorique de l'immigré type, mais un vrai personnage pour qui on ressent rapidement des émotions et un sentiment d'injustice. Alors dès lors qu'une menace invisible envahit progressivement l'espace de la vaste demeure, alors Blind Sun s'engouffre dans le pur cinéma de genre et déploie un fantastique insolite, enraciné malgré tout dans des références que n'aurait pas renié un John Carpenter ou un Romero. Alors le climat anxiogène monte en crescendo par petites touches. La réalisatrice refuse les effets faciles comme les jumpscares et reste très près de son personnage sans trop en dévoiler. Alors bascule-t-il dans la folie ?
Ah bon ?
Oui, c'est quand même mieux. Déboussolé par un environnement oppressif, est-il réellement menacé par une présence extérieure indicible ? Alors la possible révélation finale donne un élément de réponse, même si là encore on ne peut pas trop avancer d'hypothèses tangibles. Alors c'est un peu la limite de ce très beau film, hein, assimilant parfaitement ces diverses influences, conscientes ou non, hein, les films fantastiques australiens, l'épouvante politique des 70s, le cinéma de Jack Tourneur, et un ton très personnel, hein, tranchant radicalement avec le cinéma de genre contemporain. Parce que là, l'angoisse ne naît pas de l'obscurité, presque apaisante au contraire, hein, notamment une belle scène dans une église où le héros vient se recueillir, mais de la luminosité. La chaleur, les éclats d'un soleil plombant, les traversées agressives de la lumière oscillant entre le jaune et l'orange sont autant de sources terrorisantes laissant apparaître la silhouette maléfique jamais présente dans les séquences nocturnes. Le sentiment d'insécurité agit donc pleinement à ciel ouvert, hein, permettant ainsi à la jeune réalisatrice d'exprimer pleinement son talent. Alors fortement épaulé par un chef opérateur grec expérimenté, hein, Giorgos Arvanitis, qui était le chef-op quand même d'Angelopoulos, mais aussi de Liberté Oléron et puis de Dorothy, un autre film fantastique. Joyce Nashawati nous immerge à l'épicentre d'un cinéma dédié aux sensations grâce à une mise en scène inspirée, tant au niveau de la composition des cadres que des images obsédantes et jamais gratuites. Alors elle évite aussi les écueils d'un cinéma arty saturé de sa propre virtuosité, comme on en subit quand même souvent dans un pseudo-cinéma de genre. Alors si dans la deuxième partie, le récit devient parfois un peu abscon, hein, voire confus quand il abandonne certaines pistes, Blind Sun demeure vraiment un premier film remarquable, un objet sensuel et inquiétant utilisant les éléments naturels à disposition, l'eau et le feu, Alors, dans une optique créant le malaise, comme seul Peter Weir, un cinéaste australien, en faisait à l'époque avec La Dernière Vague et Picnic en Hanging Rock. Donc, il s'agit vraiment d'un film que je conseille vivement, si jamais il passait.
Eh oui, parce qu'il y a un petit problème de distributeur. C'est pas le cas du film suivant dont on va parler, Les Habitants de Raymond Depardon.
C'est un état d'esprit.
Cinérama. Voilà. Chronique. Invité et nouvelles du 7e art.
Je t'en prie, cache ta joie.
Du nord au sud, de Charleville-Mézières à Nice, de Sète à Cherbourg, je pars à la rencontre des Français pour les écouter parler. J'ai aménagé une vieille caravane et j'invite des gens, rencontrés dans la rue quelques minutes auparavant, à poursuivre leur conversation devant nous, en toute liberté.
Alors après ces profils paysans, s'intéressant au déclin du monde agricole, Raymond Depardon pose son regard sur les habitants des villes moyennes qui, selon le photographe réalisateur, eh bien, ces habitants sont oubliés. Alors c'est évidemment un documentaire à la forme singulière, soit un plan fixe, il vient de l'expliquer, invariable, pris depuis l'intérieur d'une caravane, donnant une unité de regard en un minimum de temps puisqu'on est en dessous de la norme des 1h30. On écoute Raymond Depardon défendre les habitants.
Je pars toujours un peu du même principe, c'est-à-dire que j'ai toujours l'impression qu'il y a une France qu'on ne parle pas.
Ouais.
Une France qui est un peu oubliée, et là, ce n'est pas la France rurale, hein. C'est vraiment la France des villes moyennes. Bon. Et j'ai une petite exception, parce que j'ai fait quand même Nice, qui est 5e ville de France, mais j'ai pas l'impression non plus qu'elle était un peu oubliée. En tous les cas, les habitants de ces villes, notamment, bien sûr, on s'est aperçu, plus particulièrement d'ailleurs, les femmes. Et dont la parole s'est assez libérée. On a été très surpris très vite qu'on a eu beaucoup de femmes volontaires à venir parler, à parler. Bon. Mais c'était un peu savoir si ces événements, bon, la crise mondiale, bien sûr, mais est-ce que ces événements, quelles répercussions ils ont sur la vie quotidienne de ces gens-là, des gens, voilà. Moi, j'ai évité les grands centres urbains parce que, bon, à chaque fois, on le voit un petit peu dans les médias, un petit peu. J'avais l'impression qu'on parlait toujours quand même plus d'eux que des autres. Et puis, j'avais quand même regardé, je me suis dit, mais comment les filmer, comment les interroger, voilà. Donc, c'est toujours ma quête. Si je pose une caméra, puis quelle question, puis leur poser quoi comme question, je me sentais pas. Mais j'avais quand même le souvenir que, comme ça, de conversation que je trouvais très forte. Et je me suis dit, c'est peut-être l'occasion, voilà, avec, imaginons une petite caravane, très simple, pas du tout ostentatoire, pas un van de showbiz, petite caravane qu'on mettrait comme ça à la sortie, des cafés, des axes, un point, il y a toujours un point comme ça. Et puis, filmer des conversations, mais pas sur un... pas de les couper, avec bien sûr un fond derrière, voir un peu la ville derrière. Voilà. Donc voilà, c'était... Donc le choix, c'est vite assez fait, puisque... une autre surprise, hein. On avait une toute petite équipe, mais j'avais une assistante qui était vraiment faite pour ça, quoi, qui est spécialiste, et qui allait voir les gens en disant, voilà, est-ce que vous voulez être filmé. On a eu, 90 personnes, 90 groupes, 180 personnes. On cherchait pas trop, on voulait pas qu'il y ait de trop de monde, et on voulait pas non plus que ça soit trop court, et on voulait pas non plus que ça soit trop long.
Ça va être un été mouvementé, tu vas voir. Je suis sûre que tu vas rencontrer quelqu'un. Je suis sûre, je te jure, j'arrête pas de le dire à Julio.
T'es beau.
Comme toi.
Mais on est complètement l'opposé.
À l'opposé.
On se demande pourquoi, mais ensemble d'ailleurs.
Trop de sentiments, bébé.
Trop de sentiments, bébé.
Très vite, un peu plus de femmes que d'hommes, ouais. Parce que les hommes sont toujours un peu plus difficiles, parce qu'ils sont... Bon, d'abord, c'est un peu comme ça. On a tourné que les adultes. Je m'interromps si je dis une bêtise. Voilà, on voulait avoir des liens de subordination qui ne sont pas forcément des couples au sens classique des amoureux. Bon, on en a eu quelques-uns, ouais, bien sûr. Ouais. On a eu aussi des copines, des bonnes copines. Bon, là, on a été gâtés. Hein. Ouais. Formidable.
De tous âges.
De tous âges. Mais on cherchait des liens de subordination. On n'en a eu presque pas. Bon, ils n'étaient pas très bons. Un patron et son employé.
Ah oui.
Enfin, un artisan, quoi. Pas. Mmh. On a eu un marchand de glace à Fréjus avec son employé. On a cherché un peu mes parents, c'est effectivement, on a eu pas mal aussi.
On cherchait pas vraiment le type de personne, c'est-à-dire qu'au bout de trois semaines, on s'est dit peut-être qu'il n'y a pas assez de personnes âgées. Voilà, c'est juste ce qu'on... Sinon, on n'intervenait pas vraiment. C'est vraiment l'idée de donner la parole librement et de pas influencer sur les propos et de pas choisir, de pas avoir des préjugés sur les gens. Mmh. C'est très important.
Dans la vie, il n'y a pas que les études. Hein. Le mari aussi, c'est sacré.
Et macho, ils sentent plus pisser parce qu'ils savent tenir une ponceuse. Arrêtez, la ponceuse, je te la tiens.
C'est compliqué de dormir avec quelqu'un. Ça fait du bruit, ça bouge et moi, ça me met les nerfs.
C'est pas dur, c'est la guerre.
Je suis un boomsie, ça, c'est sûr.
On a fait trois villes du Nord,
ouais,
qui ont été très fortes, bien sûr, tout de suite. Calais. Après, on s'est déplacé à Charleville-Mézières. Après, on a été à Bar-le-Duc. Personne connaît. Voilà. Après, je me suis dit, il ne faut pas faire un film que sur le Nord. Allons vite, très vite, confronter le Nord au Sud, parce que c'est quand même des particularités de la France. L'autre jour, je parlais avec un photographe anglais, Martin Parr. Et nous, on ne se rend pas compte. Il me dit, mais vous avez une chance inouïe en France. Vous avez un Nord et un Sud. C'est vrai qu'on a un Nord et un Sud. Un vrai Nord et un vrai Sud. Et c'est vrai que ces Nord et Sud se confondent toujours à travers, toujours les petites choses. Et pour voir un peu la différence, ou plutôt, au contraire, ils marchent un peu pareil. Ouais. Parce qu'au Nord, ils sont un petit peu inhibés, mais après, on ne les arrête plus. Au Sud, ils sont un petit peu parano, et après, on ne les arrête plus non plus. Donc, il y a pas mal de points communs. Je pourrais dire que il y a peut-être un peu plus de migration sur le Sud, peut-être un peu plus. Mais vous avez vu, ces deux femmes de Fréjus sont fantastiques. Parce que d'abord, il y a quelqu'un qui nous a dit, un linguiste nous a dit, et c'est elle qui parle le meilleur français.
Ouais. Je suis amoureuse. En fait, tu déconnes, non bébé.
Dès que je me suis mis en couple, toutes les filles de Nice y venaient.
Ah ouais.
Ça fait 40 ans que je suis là, je repartirai jamais.
Tu vois, en fait, la Bible, elle change. Oui, les écrits changent, tu vois.
C'est vrai qu'on a été très surpris par le côté très à l'aise. Moi, ça fait partie de mon dada, j'aime ça. Bon, c'est vrai que dans tous mes cinémas directs, moi, je bouge pas, je fais le porte-manteau, je fais le lampadaire, même dans les commissariats, des choses comme ça. Donc j'aime que les gens soient à l'aise, ça me vient de la photo, ça vient de ma génération, peut-être, je sais pas. Et c'est vrai que là, j'étais content, et puis c'est très beau ce profil.
Un couple normal, on dort ensemble.
On a eu l'habitude de vivre en famille, dans la famille et dans le quartier.
Alors, les habitants n'ont pas la force de profil paysan, ni de dixième chambre, instant d'audience ou même délit flagrant. Hein. Son dispositif est plus embarrassant, mais il a l'avantage bien de restituer une parole et de nous permettre d'écouter les autres. Il a été tourné en 35 mm. Alors, pour mettre une caméra dans une caravane, on se demande à quoi ça rime. Mais en fait, il y a aussi des interludes sur les routes de France, hein, entre toutes ces séquences où on entend Alexandre Desplat. Voilà, donc ça permet aussi d'aérer un peu bien tous ses propos. C'était Raymond Depardon dans Cinérama.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Le biopic étant un genre fastidieux et souvent difficile à réussir, il est toujours agréable d'assister à une bonne surprise comme ce Dalton Trumbo qui nous plonge au cœur d'une période noire de l'Amérique, celle des années 50, terrifiée par le péril rouge. Alors la peur du communisme va s'étendre à tout le pays, ce que l'arrestation à l'époque des Rosenberg, espion au service de l'URSS, ne va pas arranger. Alors cette plongée au cœur d'une paranoïa grandissante va évidemment avoir des répercussions à Hollywood et mettre sur la sellette au départ une dizaine d'artistes, parmi lesquels on trouve donc le scénariste Dalton Trumbo, un des artistes, on va dire gauchiste entre parenthèses, les plus intègres de son temps. Alors, il fera un bref séjour en prison, 11 mois, il me semble, puis continuera à écrire sous des pseudos, des scénarios, lorsqu'il se retrouvera blacklisté. Alors, on peut citer quelques films remarquables, notamment des films noirs officieusement écrits par ce stakhanoviste, dont Le Rôdeur de Lozay, Menace dans la ville de John Berry, ou encore le fabuleux Gun Crazy de Joseph Lewis. Pour info, Trumbo a tout de même écrit aussi Cowboy de Delmer Daves, Vacances romaines, William Wyler, Spartacus, Exodus et réalisé surtout un des chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, le poignant Johnny s'en va en guerre en 71, d'après son roman écrit en 39. Alors bizarrement, et c'est à mon avis Une des faiblesses de cet honorable tract démocrate qui sort en pleine campagne électorale, le scénario n'évoque à aucun moment l'œuvre phare du cinéaste, celle qui sous-tend toute l'idéologie pacifiste et libertaire de l'auteur. Le film est assez flou sur l'engagement politique de Trumbo et se résume à quelques diatribes contre les principes de liberté de pensée. Sur ce plan, alors, Dalton Trumbo est frustrant, mais relate brillamment une sombre période qui a atteint son apogée lorsque le sénateur McCarthy se trouvait président de la commission des activités anti-américaines. Alors, en dépit de certaines conventions, d'une reconstitution versant parfois dans le chromo et d'un épilogue rassembleur un peu assommant, ce biopic est stimulant à plus d'un titre. En priorité pour la richesse d'un scénario fourmillant de détails captivants pour les férus d'histoire et de 7e art. Alors, on croise un nombre impressionnant d'acteurs et de réalisateurs, comme John Wayne, Edward Robinson, Otto Preminger ou encore Kirk Douglas, qui sont très bien, ces deux derniers étant très bien lotis, je ne suis pas sûr que c'est.
Ah, ils ont le beau rôle.
Ah, ils ont un beau rôle. Ouais. Le film procure un plaisir jouissif et communicatif, et pas seulement réservé à quelques happy few, bien documenté et pédago. Le scénario de John McNamara est le point fort d'un film servi par une mise en scène fonctionnelle mais enlevée. Il est par ailleurs amusant de constater que le réalisateur n'est autre que Jay Roche, plus connu pour filmer les pitreries de Ben Stiller dans Mon beau-père et moi ou Mike Myers dans Austin Powers. Mais en scrutant, on constate qu'il a réalisé pour HBO un téléfilm sur la présidentielle de 2000 et un autre sur Sarah Palin. Alors, pas la peine de vous dire que Roche ne votera pas pour Donald Trump aux prochaines élections. Et donc, il ne s'agit pas d'une commande, mais d'un projet qui tenait à cœur au réalisateur. Ce qui frappe aussi dans Dalton Trumbo, c'est de voir à quel point les Américains prennent aussi un plaisir quasi masochiste à s'autoflageller, de revenir sur leur histoire sans forcément l'édulcorer. On saura, tout en donnant le bon rôle à certaines personnalités, on saura gré aux Américains une franchise que certains peuvent taxer de bonne conscience. Alors si le portrait du scénariste en lui-même apporte son lot de frustration, Dalton Trumbo est néanmoins une réussite, rythmée comme une comédie pétillante et dominée par l'interprétation brillante de Bryan Cranston, le héros de Breaking Bad.
Ah oui, il y a un autre héros d'une série, mais cette fois-ci humoristique, c'est Louis C.K., qui joue donc aussi un des scénaristes blacklistés, qui lui est beaucoup plus radical, voilà, parce qu'on ne sait pas finalement, tu as raison de le dire, on ne connaît pas vraiment l'idéologie de Trumbo, mais on voit les grands écarts parmi le groupe initial de ces soi-disant communistes. Voilà. Il y en a qui vont choisir de dénoncer leurs petits camarades, et puis il y a les autres qui vont vouloir lutter encore et toujours. Voilà.
Étrangement, c'est bizarre qu'il n'ait pas présenté Elia Kazan, qui lui a été une des personnalités qui a dénoncé le plus de gens à Hollywood. Alors, de faire l'impasse sur ce cinéaste, qui est quand même important, c'est assez étrange.
Voilà, et ça, c'est un film d'Anal Trumbo qui sort le 27 avril.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Et nous allons maintenant parler de Dégradé, des jumeaux arabes et Tarzan Nasser, palestinien. Alors nous sommes dans un salon de coiffure, métaphore de Gaza, petit territoire enfermé. Dehors, des membres de la mafia ont par provocation kidnappé le lion du zoo et déclenchent les foudres du Hamas. Alors dedans, à l'intérieur du salon de coiffure, 13 femmes parlent évidemment coiffure, mèche, dégradé, brushing, mais surtout de la société gazaoui. Alors dans ce petit espace se concentrent toutes sortes de tempéraments. Il y a la femme voilée, celle qui se drogue, la libérée sexuelle, une autre qui se marie, on y trouve également une bourgeoise aigrie et bien d'autres. Tous les âges et les catégories sociales se retrouvent confinés et montrent ainsi que Gaza est sûrement en conflit, mais cela n'empêche pas de vivre. On écoute les deux réalisateurs.
C'est très important de parler du coup de la vie à Gaza, pas seulement parce que nous on vient de Gaza, mais parce que c'est une situation très particulière et c'est une vie magnifique et compliquée là-bas. Oui, et du coup, à la fois l'occupation et l'intérieur, ça a tué une partie de la vie, mais c'est pas fini. Le salon, c'était la métaphore de Gaza, c'est pour ça qu'on l'a utilisé. Et les 13 femmes, c'est aussi la métaphore des 2 millions et demi de personnes qui vivent dans ce petit lieu. Le lien entre le salon et l'extérieur, c'est seulement l'amour, c'est la relation entre Gaza et partout dans le monde. C'est toujours compliqué quand on parle de la vie à Gaza, les gens ne nous croient pas et nous disent non, c'est pas possible. Ils veulent toujours que l'on pleure, racontez-moi vos souffrances et pas la vie. Ce qui est aussi important, c'est de montrer comment l'extérieur influe sur le salon et du coup sur la vie à Gaza, comment les événements extérieurs influencent sur la vie des gens à l'intérieur. Et du coup, c'est aussi ça qu'on a voulu montrer dans le film. C'est très difficile dans cet espace secours, d'autant plus que c'est notre premier film, de positionner les gens dans l'espace et garder une forme de rythme dans le film. C'est nous-mêmes qui avons tout fait, le décor et le salon avec nos mains. On a tout fait pour pouvoir bouger les murs et pour pouvoir bien positionner les caméras. Il y avait une stratégie dès le départ du film parce qu'on sait que c'est très dur. Il y a 85 minutes et il y avait seulement 3 possibilités de prise de vue. Du coup, il faut vraiment le penser dès le départ. Et n'oubliez pas le miroir.
Don't forget the mirror. Effectivement, c'est important. Hein. On est dans le salon de coiffure, c'est un huis clos. On n'en sort pas de ce salon de coiffure. Et il y a des miroirs qui sont là. Donc, c'est un très bel exercice de mise en scène donc fait par les deux jumeaux. Alors, en ne s'intéressant pas d'ailleurs à la relation que Gaza peut avoir avec son voisin israélien, qui est complètement laissé de côté, là, il est bien question de ce des composantes de la société gazaoui, Dégradé est finalement un film très très intéressant. Et Dégradé fait référence à la coupe de cheveux, évidemment, mais également à la lente altération de ce qui est beau. Voilà, ça c'est je cite
un des réalisateurs,
un des frères Nasser, voilà.
Tarzan.
Peut-être Tarzan. Ça sort le 27 avril, Dégradé.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Dans ses meilleurs moments, Mekong Story évoque les débuts d'Oshima, lorsqu'un vent de folie animait le cinéma japonais au début des années 60, avec des films comme Contes cruels de la jeunesse ou encore Une ville d'amour et d'espoir, ou plus récemment les premiers Wong Kar-wai, Nos années sauvages ou Happy Together, pour ne citer que. Mais il manque à ce film la sauvagerie anard de l'un et la grâce visuelle de l'autre. Alors le début laisse même craindre le pire, coincé dans un ancrage réaliste peignant le quotidien pénible de jeunes gens survivant dans une modeste baraque en bois, quelque part à Saïgon. Alors le récit dresse le portrait d'une multitude de personnages se croisant au gré de scénettes convenues et répétitives. Mekong Stories, comme le titre bateau l'indique, semble emprunter les chemins houleux du film choral, sous-genre pompeux, masquant souvent la vacuité de l'ensemble. Alors, ce n'est pas parce qu'on a plein de bribes de récits, une poignée de beaux acteurs, que l'on a quelque chose à dire ou à montrer. Alors, Du Tai Ai Yen, c'est le nom du metteur en scène, n'est pas Wong Kar-wai, mais au fur et à mesure que les histoires s'enchevêtrent, le film finit par trouver le ton juste, se détourne d'un formalisme rigide et fuit tout didactisme. Le réalisateur semble aller contre la mécanique d'un scénario que l'on sentait bien huilé au départ pour s'aventurer là où le désir se trouve. Du coup, il s'attarde davantage sur certaines figures, dont Yu, un apprenti photographe à la découverte de son homosexualité et surtout de son acceptation dans une société encore très cadenassée et régie par des lois patriarcales. Alors, la place des femmes est encore fortement limitée aux tâches ménagères et aux lois de la nature. Mais le cinéaste montre quand même une jeunesse avide d'affranchissement de ses codes figés, une envie de liberté, de rébellion intime. Il filme très bien d'ailleurs toutes les scènes de séduction, de désir, dont une séquence dans la boue magnifique de sensualité et d'animalité. Mekong Story devient passionnant en fait lorsque la parole s'arrête, lorsque les regards se croisent, les corps s'enlacent, fusionnent, la mise en scène parvient par à-coup à capter la fragilité, la force d'une jeunesse en quête de construction de soi et de déconstruction de ses modèles. Alors finalement, après une première demi-heure, on va dire laborieuse, ce second long métrage devient intéressant pour peu qu'on se laisse happer par l'atmosphère presque érotique qui s'en dégage. Un film intéressant que au début, je n'étais pas très convaincu.
Voilà, on vous laisse avec la peut-être beauté de la langue.
Et il y a une série qui a une jolie BO dans le film.
Oui, ben voilà,
un peu électronique, un peu étrange.
Il y a des oiseaux qui s'envolent, on vient de l'entendre, c'est ça ?
Oui, mais comme oui. Chez Cabrel.
Ah, quelle référence.
C'est l'or. Il est l'or.
Il n'y en a pas pour longtemps. Bien, ouvre tes oreilles.
Sors de ta connerie, sacré pendu. Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou.
Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer.
Aujourd'hui, c'était une émission avec deux interviews et puis beaucoup de films qui sortaient le 27 avril. La semaine prochaine, nous parlerons de quoi, Manu ?
Certainement de Mr. Holmes, sur les derniers jours de Sherlock Holmes. Et puis, le second film de Jeremy Saulnier, Green Room.
À la semaine prochaine.
Cinérama.
Il n'y a que des combines. Il n'y a pas de héros. Rien que des combines. Il n'y a pas de gagneurs. Rien que des combines et de la merde. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de génie. Rien que des combines et des contes de fées. Ça fait durer la partie.
Sur Divergence FM. Divergence.